sur l'info, le journal
avec MCM,
présenté par Vaïté Ourari Pambrin.
Et Vaïté, elle est là pour le journal, bonjour.
Yorana Moreto, yorana à tous. Au menu de notre édition de ce mardi 12 juillet, politique sociale au Fénois avec des délais d'attente de 10 mois pour recevoir la notification de l'attribution de l'allocation handicapée, des démarches administratives trop lourdes, une base de calcul vieille de 20 ans, telles sont quelques-unes des anomalies que l'élu PLD Eliane Tevahitoa dénonce. Il faut arrêter la malhonnêteté intellectuelle concernant le dossier de l'énergie. Ce sont les propos tenus hier par le vice-président Nui Haouloré lors d'une conférence de presse. Et enfin, nous parlerons sport avec la sélection du Fénois qui jouera contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Salomon lors de la troisième phase qualificative de la zone Océanie pour la Coupe du Monde de football qui aura lieu dans 2 ans en Russie.
Et pour commencer, c'est triste, mais un bateau et un cadavre ont été retrouvés à Takapoto.
Et l'alerte a été donnée samedi. Le MRCC a reçu un appel en provenance des États-Unis et au bout de la ligne, la femme d'un skipper en transit entre les Marquises et Tahiti. Elle était inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son mari depuis 5 jours. Et dimanche matin, le MRCC a donc lancé une opération de recherche à l'aide du gardien. Et c'est grâce au téléphone satellite du bord resté allumé que les secours ont réussi à géolocaliser le voilier recherché. Il était échoué au nord de l'atoll de Takapoto. Otuamutu, prévenu, le mouteuil de l'île s'est rendu à bord pour prendre des nouvelles du skipper et il s'est retrouvé face à un corps sans vie. À ce stade de l'enquête, il est encore impossible de dire si la victime est bien l'homme recherché. Les gendarmes seront sur place aujourd'hui pour débuter leur enquête. Ils procéderont à l'identification du cadavre et aux premières constatations.
L'UPLD dénonce des anomalies autour des allocations pour les handicapés.
Après les conséquences sanitaires et sociales désastreuses de la loi antifraudeur concernant le RST, l'élu UPLD Eliane Tevahitoa dénonce désormais les conséquences sociales déplorables des conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Et ce, au travers d'une question écrite destinée au gouvernement et notamment à la ministre de la Solidarité, Théa Frongier. Et dans sa question écrite, l'élu UPLD dénonce le fait que les démarches administratives pour l'attribution de cette fameuse allocation relèvent d'un vrai parcours du combattant pour la personne handicapée et sa famille. Plus encore, elle ne comprend pas le délai d'attente incroyablement long.
Ils avaient déposé le dossier complet et qui dit dossier complet dit des multitudes de procédures administratives auparavant à remplir avant de rendre ce dossier et ils se plaignaient du fait que ça faisait 10 mois qu'ils n'avaient toujours rien reçu par rapport à cette demande d'allocation pour handicapés et que ça les mettait vraiment dans une posture économique très difficile.
Vous dénoncez aussi les démarches administratives qui sont très lourdes par rapport à ces dossiers.
Oui, tout à fait. Et en fait, la demande, c'est c'était de pouvoir, d'une part, essayer de simplifier et de raccourcir les délais de traitement des dossiers. Bon, il se peut également qu'au niveau des services sociaux, il y ait des problèmes de manque de personnel. Il me semble que depuis le début de l'année, les services sociaux du pays sont confrontés quand même à un afflux de dossiers, ne serait-ce que pour les dossiers de RST. Et donc, les dossiers de handicapés doivent rentrer dans le même cadre, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à traiter rapidement ces dossiers-là, d'où des délais qui s'étirent sur plusieurs mois.
Eliane Tevahitoa a qualifié même ces lourdeurs administratives de mesures dilatoires, pour ne pas dire vexatoires, à l'encontre des personnes handicapées pour bénéficier in fine de cette allocation. De plus, l'élu s'étonne de voir que la base de calcul de cette allocation soit restée définitivement figée sur le SMIC d'il y a 20 ans et demande à ce qu'elle soit revalorisée.
Peut-être il serait grand temps de mettre à jour cet indice-là. Et bon, j'ai été un peu fort en précisant qu'il faudrait peut-être le calquer sur le SMIC actuel, comme ça l'était en 1996.
Comme au RSPF, vous demandez au gouvernement finalement de faciliter toutes ces démarches. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu par rapport à ça?
Écoutez, je suis dans l'opposition, mais c'est une opposition que j'estime être constructive et nous mettons en avant des anomalies qu'il convient effectivement de rectifier et de faire en sorte que ces problèmes-là ne persistent pas dans le temps. Dernièrement, j'ai une dame qui est devenue veuve, son mari était en RNS et cela va faire 3 mois, elle n'a aucune couverture sociale. Donc ça suppose pour elle, qui est femme au foyer, donc sans aucune source de revenus, de devoir être obligée d'emprunter pour ne serait-ce qu'aller chez le médecin, aller consulter le dentiste pour des soins tout à fait élémentaires. J'estime que c'est vraiment un comble dans notre système de protection sociale.
Eliane Tebahitoua espère avoir une réponse dans un délai proche et que des améliorations soient apportées par rapport à toutes ces anomalies.
Ah oui, 20 ans, ça date pas d'hier. Et puis, le vice-président, lui, compte sur la commission d'enquête pour rétablir la vérité.
Plus question pour Nui Haouloré de se laisser faire concernant les critiques ou les attaques de l'opposition sur le dossier de l'énergie. Après l'Assemblée jeudi dernier, le vice-président a fait hier le point sur ce dossier. Après plusieurs passes d'armes avec l'opposition et déjà 5 actions en justice pour diffamation, le ministre en charge de l'énergie s'est voulu pragmatique et factuel en dressant un état des lieux complets du travail effectué par le gouvernement et surtout en démontant, toujours avec un exemple, les accusations dont il fait l'objet depuis plusieurs semaines et il le dit au micro de Cédric Vallax.
J'ai donné un document où je passe en revue tous les sujets. Le swag de l'hôpital, qui est bloqué depuis plusieurs années, Temowitoapi, avec la seule ferme éolienne au monde où vous avez toutes les éoliennes à terre et dont la production électrique est assurée par des groupes diesel. J'ai donné l'exemple de Secosud avec Mme Tina Cross qui souhaite intervenir dans ce débat alors qu'elle n'est plus membre de Secosud. Et j'ai surtout donné l'exemple du prix de l'électricité. Tout le monde souhaite que le prix de l'électricité baisse et nous avons fait en sorte qu'il baisse 2 fois d'affilée de 10% en l'espace d'un an. Et les mêmes personnes qui nous accusent de ne pas faire baisser suffisamment le prix de l'électricité l'ont fait augmenter jusqu'à 18% lorsqu'ils étaient au pouvoir. Bon, il y a des limites aussi à la malhonnêteté intellectuelle qui a cours en ce moment.
Et pour mettre un terme définitif à ce qu'il qualifie de campagne politique mensongère, Nui Haouloré attend maintenant que la commission d'enquête sur l'énergie, dont la création a été actée par l'Assemblée, commence son travail.
C'est le travail de la commission d'enquête de mettre en évidence toutes les responsabilités. J'ai même demandé moi-même à ce que la presse puisse assister à toutes les auditions. En matière de transparence, on ne peut pas faire plus.
Alors, elle arrive quand cette commission d'enquête maintenant ?
Le plus rapidement possible, elle doit être inscrite en commission permanente et elle doit être examinée par les représentants. Là, c'est un travail des représentants. L'exécutif ne se mêle pas de cette partie. Et ensuite, je pense que le rapport qui devra être rendu sera suffisamment éclairant pour tout le monde. Je pense que cette commission auditionnera toutes les personnes qui ont quelque chose à dire et nous verrons à l'issue quelles seront leurs préconisations.
Le document dont le vice-président faisait état plus haut, vous pouvez le retrouver sur notre site internet radio1.pf.
Vos témoignages sur les baisses de factures d'électricité et de DT au 87 25 25 25. Si un jour ça a baissé chez vous, vous nous le faites savoir. Le parquet a rendu son réquisitoire définitif dans l'affaire Ravel-Le Gaïc.
Et il l'a fait vendredi dernier après 4 ans d'enquête et de procédure. Le tentaculaire dossier Ravel-Le Gaïc est enfin bouclé. Une information révélée hier par nos confrères de Tahiti Info est dans cette vaste affaire de trafic d'influence et de corruption impliquant l'homme d'affaires Bill Ravel qui est accusé d'avoir versé plus de 40 millions de pots de vin au syndicaliste Cyril Le Gaïc mais aussi à plusieurs autres hommes politiques et affaires du Fénois, parmi lesquels l'actuel ministre du Tourisme et porte-parole du gouvernement Jean-Christophe Bouissou et l'ancien ministre de l'Équipement James Salmon. Le dossier est maintenant sur le bureau du juge qui doit rendre dans les prochaines semaines une ordonnance de clôture. Reste maintenant à savoir si le juge décidera de suivre ou non les conclusions du procureur José Torel et si c'est le cas, un procès pourrait avoir lieu l'année prochaine.
Allez, du sport et du ballon rond. On n'en sort pas de ce ballon rond. Un ballon ovale, par pitié, non? Allez, le tirage au sort de la 3e phase pour la Coupe du Monde en 2018.
Et cela a eu lieu vendredi en Nouvelle-Zélande. Un tirage au sort d'ailleurs favorable pour le Finnois qui affronteront 2 équipes à sa portée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. Charles Ariotima, directeur des compétitions de la Fédération Tahitienne de Football, s'en réjouit et il le fait savoir au micro micro de Cédric Valax.
C'est une très, très bonne nouvelle. Nous, on pense vraiment qu'au niveau sportif, Tahiti a de très, très grandes chances. Nous jouons contre les PNJ et les Solomon qui sont prenables pour Tahiti. Puisque dans l'autre poule, il y a les deux grandes équipes, qui est la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Déjà, avec la Calédonie, nous avons perdu au match de poule en Nations Cup. Vu le match, la Calédonie a largement dominé Tahiti. N'en parlons pas de la Nouvelle-Zélande, où il n'y a que des joueurs professionnels.
Si sportivement le tirage au sort est favorable à la sélection tahitienne, il faudra tenir compte du rythme des compétitions car les joueurs auront de nombreuses heures d'avion et donc de fatigue avant chaque match.
Pour aller en Solomon et au PNJ, il faut au minimum 20 heures de voyage et sûrement on va peut-être faire un jour d'escale. Et là, c'est pas bon. Tahiti le sort le Solomon en premier, ça c'est une bonne chose pour nous. Ensuite, juste le lendemain, on prend l'avion pour aller jouer le Solomon chez eux. Par contre, contre le PNJ, j'avais fait une demande de pouvoir recevoir PNJ en premier. Malheureusement, l'OFC a décidé autrement que nous allons nous rendre d'abord au PNJ, donc nous allons taper 20 heures de vol. Peut-être nous allons arriver deux jours avant, premier match. Donc juste après, le lendemain, je pense qu'on va reprendre l'avion pour se retaper encore 20 heures de vol pour revenir sur Tahiti et deux jours après, jouer le match de retour à Pattaya contre le PNJ. Et là, au niveau, je pense, au niveau de la récupération, sera très très difficile pour nous.
Le grand gagnant de cette coupe rencontrera en octobre 2017 le cinquième de la zone Amérique du Sud et le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du Monde en Russie 2018.
Et ballon rond toujours, mais sans crampons et dans le sable avec les Tikitoa qui vont rechausser leurs pieds nus au pays du soleil levant. Leurs crampons, qu'est-ce que tu m'écris, Vaïté? Il n'y a pas de crampons, ils sont que... Au secours.
Bon, ils disputeront les 17 et 18 septembre prochains deux tests match face à la sélection nippone de beach soccer. Il s'agira de la première rencontre officielle des vice-champions du monde en titre depuis la finale de la Samsung Intercontinental Cup de Dubaï où ils s'étaient inclinés 5 buts à 2 face à la Russie. Et ces deux matchs rentrent dans le programme de préparation des Tikitoa 9 mois de la prochaine Coupe du Monde aux Bahamas qui aura lieu en avril 2017.